Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Claude est un voyageur intemporel. Il a quitté son Luxembourg natal depuis bien des années et se laisse porter par ses envies d'ailleurs et de rencontres. La photographie l'accompagne dans tous ses déplacements et c'est grâce à elle qu'il trouve un sens dans son itinérance. Rencontré à Siem Reap lors d'un stage photo, nous avons sympathisé et Claude s'est spontanément prêté au jeu du micro pour nous parler de sa démarche du voyage et de son mode de vie qui pourrait faire rêver. Bah écoute, c'est parti. Alors là, c'est bien parce qu'il y a l'ambiance sonore, t'as la cloche.
Bah écoute, on est au beau milieu, on est à l'ombre, c'est déjà pas mal pour l'Asie. Hein. On est au beau milieu d'un très ancien temple, où il y a plein de moines cambodgiennes, une école de moines, il y a des vieux moines, il y a un cimetière de moines, il y a des crémations qui se font, avec un super beau temple, vraiment très très vieux, et une très belle lumière.
Et un serpent aussi là devant nous, mais un grand serpent de pierre qu'on retrouve beaucoup, là, les nagas, dans la culture asiatique. Tu connais un petit peu cet emblème?
Oui, bien sûr, il est très beau, mais il n'est pas encore fini. Il va être peint par après. Apparemment, il manquait la peinture encore.
Voilà, donc un naga à plusieurs têtes. Donc en fait, on est à Siem Reap, au Cambodge, pas loin des fameux temples d'Angkor. Hein. C'est pour ça que Siem Reap est une ville connue. Beaucoup de gens passent, beaucoup de gens qu'on peut rencontrer. Je t'ai rencontré pas plus tard qu'aujourd'hui. Voilà, qui es-tu? Présente-toi.
Je m'appelle Claude, ce qui est un prénom bien connu quand même en France, je présume. N'empêche que je ne suis pas français, c'est quand même assez important de le dire, surtout que quand je m'y mets à bégayer, on en parlait. Je suis né en Luxembourg, mais je ne me vois pas luxembourgeois non plus. Je me vois vraiment comme citizen du monde, comme on dit. Je voyage depuis presque 20 ans maintenant, non-stop, dans tous les continents du monde. C'est devenu mon genre de vie, c'est mon mode de vie que j'ai choisi.
Alors quand on dit ça, quand on dit aux gens, moi je voyage beaucoup, je suis souvent à l'étranger, ça fait rêver beaucoup de gens, mais la question qu'on se pose c'est pas possible, comment tu fais? T'es très riche alors?
Bien sûr. Surtout que je vivais une fois en Suisse, quoi. Non, ça, tout dépend bien sûr comment qu'on vit. Dépendant des pays, c'est sûr que si on passerait 2 ans à vivre en Tokyo, ça coûterait quand même un petit peu, quoi. Non, c'est pas tellement expensive en anglais. Non, je pense pas, mais n'empêche que je veux pas motiver trop de gens à le faire, parce que je trouve qu'il y en a déjà trop qui le font. Franchement, il y a moyen de s'en sortir, disons comme ça.
Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, on ne se rend peut-être pas compte quand on ne voyage pas, mais quand on commence à prendre la route, il y a énormément de gens qui sont là, sur les routes, avec plein de manières différentes de voyager. Quels sont les différents types de voyageurs que tu rencontres, toi?
Ouh là là, là il y en a beaucoup, effectivement. Bon, il faudrait déjà qu'on sépare, comme tu dis, le voyageur, ce que moi j'appelle le voyageur. C'est quelqu'un qui est intéressé par les cultures, qui est intéressé par les pays lui-même, qui adore le mouvement, qui est prêt, qui est ouvert, qui veut apprendre lui-même, qui n'est pas fait, qui n'a pas de préjugement. Et puis, malheureusement, je dirais, on en parlait souvent, je pense déjà hier un petit peu, le touriste de masse prépayé, etc., qui lui, il veut passer un bon temps pour 2 semaines, etc. Et ça ne se compare pas. C'est un monde complètement différent, effectivement.
Donc, quand tu voyages, tu rencontres les touristes et les voyageurs?
Absolument. Absolument. Heureusement, il y a encore des, comme tu dis, ce que moi j'appelle les voyageurs, les gens qui, font ça depuis une petite éternité. Mais c'est vrai qu'il y a eu du changement. Moi qui voyage donc maintenant presque non-stop pendant 20 ans, j'ai vu une grande évolution dans le genre de tourisme, si tu veux. Le touriste lui-même a changé. Aujourd'hui, tu vois de plus en plus de jeunes. Je veux pas être vieux jeu, je veux pas être méchant. Le problème, c'est que tu as beaucoup de jeunes qui voyagent avec, par exemple, l'argent des parents, Hein. Donc ils s'en foutent un petit peu en bon français, ce que ça coûte, hein, etc. Et ça, c'est une autre manière de voyager, si tu veux. Et ça, ça a évolué. Le typus lui-même du voyageur a changé entre-temps. La chose la plus importante, je trouve, c'est déjà le mot en gros lettres, respect. Hein, moi, j'éprouve souvent, il y a des gros problèmes à voir des gens qui, moi j'appelle ça une arrogance culturelle. Hein, par exemple, mais c'est pas pour sauter maintenant sur les femmes, pour jouer des sexistes, mais c'est un exemple. Les femmes qui se mettent au sein nu sur les plages bouddhistes, par exemple. Hein, parce qu'il fait chaud, voilà, on se met en tenue, on reste dans un pays bouddhiste, il faudrait respecter ça, quoi. Et ça, c'est un gros problème, quand tu vois. Il y a beaucoup d'endroits où il y a vraiment ce tourisme de masse, qui s'en fout un petit peu ce qu'il fait, et ils n'assument pas la responsabilité du changement.
Donc toi, tu as choisi de voyager relativement jeune, alors qu'est-ce qui a fait qu'un jour tu te dises « Bon, allez, le Luxembourg, c'est un très beau pays ». C'est quoi ? Qu'est-ce qui a fait que tu as envie de dépasser les frontières du Luxembourg ? Tu t'es senti un petit peu restreint dans ton pays ?
Luxembourg spécifiquement parlant, oui, bien sûr. Enfin, écoute, c'est très facile. J'ai quitté le Luxembourg en tant que mon propre pays de naissance quand j'avais 19, tout simplement parce qu'effectivement, il était trop très joli. On y vit bien, c'est un beau pays. L'économie, c'est pas mal et tout, mais c'est très petit, c'est très réduit comme moyen. Et là, j'ai fait connaissance d'un Suisse, et puis j'ai vécu pendant quelques années quand même en Suisse. Et puis j'ai quitté la Suisse quand j'avais du genre moitié trentaine. Si j'ai bonne mémoire, c'était quand j'avais 35 ans. Tout simplement parce que je me suis retrouvé sur un moment précis où je me suis tout simplement demandé la qualité de vie pour toi personnellement, c'est quoi Et ça n'a rien à voir avec gagner beaucoup d'argent ou avoir un super boulot. C'est simplement se sentir bien, être heureux, s'évader, se trouver soi-même, avoir le temps libre de faire ce qu'on veut, etc. Et ça, c'est le moyen que j'ai choisi maintenant, le moyen de vivre. Je dis tout simplement, la manière que je vis maintenant, c'est une manière de vivre. Moi, j'appelle ça même pas voyager, c'est ma manière privée de vivre. Et bien sûr, ça me permet de vivre comme je veux. Ouais. C'est un grand luxe, au fait.
Donc en fait, tu as eu un changement de vie. On peut dire que tu as deux vies. Celle en Suisse, où tu étais plus businessman, et celle maintenant, où tu n'es plus voyageur, mais tu vis en fonction de ce que tu es intérieurement, de ce que tu ressens, tu parles de liberté.
Absolument, absolument. Je me rappelle bien sûr du temps où j'étais businessman. J'étais d'ailleurs assez... j'avais pas mal de succès. J'avais 7 compagnies qui m'appartenaient, donc ça marchait merveilleusement bien. Mais si je compare, franchement, en me rappelant du temps, si tu me demanderais directement, je me sens nettement plus heureux aujourd'hui que dans le temps. Ouais.
Tu te sens heureux, mais qu'est-ce qui fait qu'on va se sentir heureux ? Comment est-ce que tu pourrais... Parle-moi de cette émotion. Pourquoi est-ce que tu es heureux aujourd'hui ?
Ben, c'est complexe quand même. Être heureux, ce n'est pas seulement un détail bien précis. C'est une complexité de choses. Mais c'est sûr qu'il y a une chose qui joue. Même si c'est un mot très, très, très usé et d'ailleurs affecté avec beaucoup de préjugements, mais c'est la liberté. C'est-à-dire, moi, mon luxe de vie, à moi, c'est tout simplement, je dis toujours, je fais ce que je veux quand je le veux. Et ça, c'est déjà un luxe impayable. Ça, et avec tout le succès que je me payais dans le temps et avec tout l'argent du monde, c'est une chose que tu ne peux pas payer. Hein. Même au contraire, on en parlait hier d'ailleurs aussi, hein, quand on se fait connaissance, plus que tu as du succès dans notre monde à nous, moins que tu as de la liberté au fait, parce que tu deviens un esclave de ton succès. Tu as des rendez-vous, tu as une certaine infrastructure que tu dois payer et tout ça, et donc tu perds ta liberté. Et déjà ça, la liberté, je sais bien que c'est un gros cliché au fait, mais c'est ce que j'ai trouvé dans ma manière de vivre. Il y a des matins, franchement, il y a une question que je rencontre souvent, les gens me demandent souvent, tu restes encore combien de temps? Et ma réponse est toujours la même, je ne peux pas te dire. Et ça, voilà, ça décrit ma vie, si tu veux. C'est-à-dire, je me lève le matin et je sens que j'ai envie de partir. Je trimballe mes quelques petites affaires et je me casse. Et ça, c'est un sentiment de vie que tu portes avec toi, qui est pour moi personnellement un grand, grand luxe et qui est impayable et qui me fait déjà très heureux.
Donc, tu as le temps.
J'ai le temps. Et puis j'ai les possibilités et les moyens si tu ne fais pas l'association de moyens avec l'argent. C'est-à-dire, moi j'arrive à faire ce que je veux, peut-être pas avec l'avion, mais en me laissant du temps avec un bus, etc. Parce que ça coûte nettement moins, par exemple. J'ai les moyens, oui, mais ils sont restreints, mais n'empêche, je peux faire ce que j'ai envie de faire quand je le veux. Et ça c'est une source de bonheur, moi je trouve.
Tu t'appelles Claude, on n'a pas encore parlé de toi.
Ouais.
Bonjour Claude.
Bonjour.
Donc Claude, tu as plusieurs vies, mais tu es aussi une vie de photographe. Et c'est ça aujourd'hui ton modèle économique. Si tu peux voyager, c'est grâce à la revente de tes images. Si on te google un petit peu, on pourra trouver quelques-unes de tes photos. Donc comment est-ce que tu es arrivé à la photographie? Est-ce que c'est la photographie qui t'a finalement permis de vivre comme tu le vis aujourd'hui?
Bah écoute, au début, la photographie, j'ai toujours fait de la photographie, j'ai toujours été intéressé, tout simplement, tiens, il y a quelqu'un qui fait de la photographie là-bas, au coin, dans le temple, avec un gros appareil, tiens, en fait.
Et un beau zoom.
Il faudrait voir les résultats, maintenant. J'ai toujours été intéressé par la photographie, parce que pour moi, c'est la création. Je pense que j'ai commencé quand j'étais très très jeune, donc j'ai acheté mon petit boîtier, dans le temps, c'était bien sûr chronique, Et j'ai fait ça comme hobby, si tu veux. Et les gens, quand je suis rentré, encore dans le temps, les gens, ils aimaient bien. Ils disaient, oula, c'est génial, ça, etc. Et c'est la photographie qui m'a trouvé, moi, si tu veux. C'est pas l'autre sens. C'est pas moi qui ai trouvé la photographie, c'est la photographie qui m'a trouvé. Et ça m'a... C'est mon hobby qui est devenu, finalement, mon boulot, si tu veux, en quelque sorte. Par les gens qui m'ont poussé, au fait. Qui ont dit, allez, il faut continuer dans ce sens-là. C'est bien, ça nous plaît, etc. Et voilà, je me suis mis et dès le début, ça a marché apparemment assez bien pour. Ouais.
À quel moment tu as choisi de vivre de la photographie? Parce qu'aujourd'hui, si j'ai bien compris, c'est ça qui te fait vivre.
Oui, c'est vrai qu'entre-temps, si tu voyages comme moi, qui s'est tapé tous les continents du monde, avec entre-temps, je pense, au-delà des 200 pays dans le monde entier, il faut trouver quand même à un certain moment une motivation pour continuer. Parce qu'au fait, le problème du voyage extrême, j'appelle ça un voyageur qui voyage, je ne vais pas dire une petite éternité. C'est
même... Tout le temps, quoi, qui ne s'arrête jamais.
Voilà, non-stop, c'est la saturation. Il y a un problème du genre, si une fois tu as vu les plus belles plages du monde, comment tu veux continuer à toper ça, en fait. Voilà. Et il faut trouver une motivation, justement, pour continuer. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu la photographie, parce que la photographie me permet de rencontrer beaucoup de gens et de m'exprimer. Par la photographie, je vis mes sentiments. Je vis ma vie, au fait, si tu veux. Ma vie se retrouve dans la photographie. C'est-à-dire, les gens qui me suivent vraiment, que ce soit sur Facebook ou sur mon lien direct, sur Internet, etc., ou qui achètent des trucs de moi, bien sûr. Il y a des gens, je sais, j'ai eu souvent la réflexion, qui sont entre-temps capables de me dire un petit peu les feelings par lesquels je passe pour l'instant.
Donc en fait, c'est un peu une retranscription, enfin ton œil retranscrit ce que ton âme ou ce que ton être vit intérieurement.
Ouais, si tu veux, ouais. C'est parler sans parler, si tu veux. Ouais. C'est, voilà, j'ai dit, la photographie pour moi, c'est une des langues, comme la musique d'ailleurs aussi, au fait. C'est une des langues internationalement comprises. Tu n'as pas besoin de causer le même dialecte. Tu vois une image et tout se dit, si c'est une bonne image, tout se dit par une image. D'ailleurs, il y a les fameux proverbes français, je pense, qui dit aussi, une image en dit plus que 10 000 mots. Voilà.
Toi, tu as choisi de continuer à voyager. C'est vraiment le mode de vie. Tu parlais, tu n'es pas un voyageur, c'est toi, c'est ton mode de vie. Donc parle-moi un petit peu de ce mode de vie.
Ça débute par le fait que je ne suis plus résident nulle part, avec le petit avantage que tu ne payes plus d'impôts aussi dans aucun pays. Mais il y a aussi des effets secondaires peut-être un petit peu moins agréables. D'ailleurs, écoute, c'est très facile. En général, quand je rencontre des autres voyageurs et tu commences à les connaître, ils commencent à te causer un petit peu en privé, te demander d'ailleurs, et toi, tu fais quoi dans la vie, etc. Et tu commences à leur causer de ta manière de vie à toi. La plupart des temps, les gens disent « Ah, mais c'est génial, ça, ça doit être le paradis, etc. » Et moi, je dis toujours « Oh, 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 attends, c'est un cliché, ça. » C'est une manière de vivre avec tous les avantages et les désavantages que chaque autre manière de vivre peut avoir aussi. Il y a des désavantages à ça. Je ne nierai jamais qu'il y a des moments où tu aimerais bien avoir un living à toi. Il y a un home, comme on dit en anglais. Il y a une place qui est à toi, qui est safe, qui, tu sais, tu peux y retourner. Des fois, il te manque peut-être des gens, des copains. Il te manque des fois, ça c'est très souvent les longs voyageurs, il te manque une bouffe bien précise que tu aurais bien envie de manger. Une spécialité quelconque d'un pays, etc. Donc voilà, il y a des désavantages aussi à ça. Mais c'est mon moyen de vivre. Et c'est le moyen de vivre que j'ai appris qui me rend long terme le plus heureux, au fait.
Comment est-ce que tu choisis tes destinations? Donc, si tu es dans le voyage permanent, tu disais des fois, les matins, je me réveille et je sais que c'est le moment de partir. Mais partir où? Comment est-ce que tu te fixes tes orientations, les directions que tu prends?
Crois-le ou pas, très, très, très spontané. C'est-à-dire, il y a des fois, ça m'arrive d'avoir encore un visa pour un mois dans un pays quelconque. Et tout à coup, je me lève le matin, je peux pas m'expliquer moi-même, ou même expliquer à mes copains qui m'entourent, peut-être à ce moment, mais je sens que j'en ai plus envie. Et puis, je change de pays. Et je change de pays, là aussi, beaucoup d'influences possibles. Peut-être que j'ai eu un email d'un autre copain à moi qui m'a dit, écoute, moi, je suis là et là. Pour l'instant, il y a très peu de monde, il y a très peu de touristes de masse, etc. Et là, j'ai trouvé un super endroit très sympa avec d'autres gens et on se sent vraiment bien, tu n'aurais pas envie de venir. Et hop, je saute et puis voilà, c'est parti.
Qu'est-ce que tu réponds aux gens? Il y a beaucoup de gens qu'on rencontre où il y a cet attrait de « moi, je veux aller dans un pays où personne ne va ». J'entends beaucoup ça chez les voyageurs aujourd'hui, ouais. Ou chez les touristes. Quoi. Non, moi, le tourisme de masse, je ne le veux pas. Ouais. Je veux aller là où personne ne va.
Ouais, moi, je rigole toujours. Parce qu'il y a énormément de touristes de masse qui disent toujours « bah, tu sais, moi, j'étais là et là, mais il y avait trop de touristes là. » J'ai changé parce qu'au fait, il y avait trop de touristes. Je m'en marre parce qu'un gros problème aujourd'hui, c'est que ces endroits qui sont vraiment hyper isolés, les endroits vraiment paradisiaques, où il n'y a jamais eu un pseudo-touriste auparavant, ben c'est fini ça malheureusement, t'en trouves plus. Ça, c'est le problème de notre temps. Je sais que c'est une théorie qui n'est pas populaire du tout, mais moi je dis toujours, le voyage aujourd'hui c'est devenu beaucoup trop aisé, et d'ailleurs beaucoup trop bon prix au fait. C'est-à-dire, pour moi, il y a une disharmonie de... C'est pas sain, en fait, si tu veux, que c'est facile. En hiver, par exemple, quand il fait très froid en Europe, il y a énormément de gens qui se disent « je prends l'avion pour aller les Maldives pour 2 semaines ». Et au fait, dépendant où tu habites, de prendre l'avion à l'autre bout du monde pour 2 semaines, ça peut être meilleur prix que de rester chez soi. Et pour moi, économiquement et écologiquement surtout, ça ne donne pas de sens, si tu veux. Et ça fait que tu trouves des gens partout, à des endroits incroyables. Je me rappelle qu'une fois, j'étais dans un, comment tu dis en français ça, les bateaux qui coupent à l'Arctique, qui coupent les glaces. Les brises-glaces. C'était génial. Et on était tranquillos à craquer. Et tout à coup, il y a un bruit énorme. Il y avait 3 hélicoptères avec un club de bowling quelconque, retraité du genre. Et on se demande, mais qu'est-ce qu'ils foutent là quoi, voilà, c'est hip. Ils ont le temps, ils ont l'argent, et ils sont là. Si tu les demandes pourquoi ils ont choisi cet endroit-là, ils ne sont même pas à même de te le dire parce qu'ils n'ont pas de lien spécifique avec l'endroit. Mais voilà, quelqu'un lui aura dit, c'est une aventure, il faut le faire.
Mais hier, on parlait de la globalisation ou la mondialisation en français. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a une démarche de consommation. Et souvent, quand on voyage, on est là pour consommer de la culture, consommer une plage, consommer une piscine. Voilà, on reste dans ce mode de vie qui nous suit, qui nous colle. C'est un peu aujourd'hui, le 21e siècle, c'est ça. C'est on consomme. On consomme chez soi, mais on consomme aussi à l'étranger. Donc pour toi, est-ce qu'il y aurait une manière plus responsable de voyager et de consommer?
C'est un gros rêve, d'ailleurs, que je rêve moi-même depuis une éternité, mais je me rends compte que ce n'est pas la réalité. Bien au contraire, le problème s'empire, je dirais. C'est effectivement comme tu dis, aujourd'hui, les gens consomment et ne prennent plus de responsabilité. C'est-à-dire, ils ne se demandent pas ce qu'ils font et ils ne se demandent pas les conséquences. L'exemple que je disais il y a quelques minutes, la jeune fille qui est seins nus sur une plage bouddhiste, elle le fait parce que voilà, elle veut bronzer partout, elle n'a pas envie d'avoir les traits derrière, sur son bikini, sur son dos, et puis elle a le sens de liberté, j'en sais rien, etc. Mais elle ne se rend pas compte et elle ne prend justement pas la responsabilité, ce que ça fait aux locaux, surtout aux hommes, bien sûr, locaux, qui ont une certaine croyance religieuse, etc. Et ce que ça pose comme problème par après. Et ça, c'est un gros problème mondialement. Voilà. Tout se change. Pour moi, franchement, je sais que ça sonne très triste, mais pour moi, c'est absolument la réalité. C'est-à-dire qu'on est en train de perdre, mondialement parlant, toutes les cultures du monde, un rythme incroyable pour une seule culture, qui est notre culture à nous, et j'irais même plus loin, qui est la culture américaine. Et elle est bien connue pour être la culture primordiale de consommation pure. Et toutes les autres cultures du monde sont en train de nous copier. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'il faut se rendre compte que, par exemple, imagine-toi que tu serais né, allez, on va dire, comme on est en Asie du Sud, tu serais né au Vietnam, tu serais né au Laos, dans un endroit, dans un petit bled, village très, très pauvre, et à longueur de journée, tu vois des gens, venant de, je sais pas, sortant du ciel, au fait, dans le vrai sens du mot, avec des iPods, des iPads, avec des super caméras, ils ont le temps libre déjà, ils passent beaucoup d'argent pour venir, et toi, tu es là, tu n'as pas l'argent pour acheter un coca à boire, ou pour visiter peut-être ton ami dans le bled voisin, parce que le bus, il est trop cher, mais c'est sûr que tu veux avoir la même chose. c'est sûr que tu dis, mais eux, ils ont le paradis, c'est super, moi je veux avoir ça, quoi. Et comme il n'a pas l'éducation derrière, ils ne se rendent pas compte des problèmes de notre société qu'on a. Voilà, justement, les effets secondaires de notre société, qu'on a un taux de suicide, des gens qui se suicident, qui sont malheureux, des gens déprimés, et tous ces problèmes-là, des gens qu'on perd, que les gens ne sont plus sociaux chez nous, etc. Eux, ils ne connaissent pas, ils ne se rendent pas compte, en abandonnant leur culture à eux et en essayant de copier la nôtre à nous, il y a ce qui se perd. Et au fait, si tu veux, je vais beaucoup plus loin en disant qu'on y perd tout. Quand même pour trouver aussi une autre culture, une autre vue des choses, que ce soit religieuse, que ce soit philosophique ou peu importe. Qu'est-ce que ça donne si ici quelques générations, peu importe où tu vas, c'est partout pareil, quoi.
Et quelque chose que j'aime bien rappeler aussi, c'est qu'on parle de consommation, d'aller dans les pays, de voyager. Tout ça, on le fait sur une planète, qui est une planète ronde, qu'on connaît, une planète finie, avec des ressources qui sont finies. Et à un moment donné, ça ne marchera plus, tout ça. Ce modèle ne peut pas fonctionner. Et si on peut voyager aujourd'hui comme on le fait, c'est parce que, comme tu dis, il y a des gens qui vivent encore dans des rizières et qui ne consomment rien et qui n'ont rien. Mais si tout le monde se mettait à vouloir vivre de la même manière, si 6 milliards d'êtres humains souhaitaient tous avoir un iPod, une caméra, une voiture et prendre un avion pour aller voir ce qui se passe ailleurs, ça ne fonctionnerait pas.
Ah oui, évidemment. Il y a la fameuse image que... C'est très facile. Si chaque Chinois ou chaque Indien se tape deux bagnoles en moyenne, il n'y a plus d'air pour respirer, quoi, avec la technologie actuelle. Voilà, gros problème, effectivement. Mais aujourd'hui, je ne vais pas jouer au très vieux jeu, etc. N'empêche que j'ai un certain âge déjà, bien sûr. Et on voit des choses quand même un petit peu différentes, j'espère, avec l'âge aussi, l'expérience de vie, n'est-ce pas? Mais je veux pas sonner quand même trop vieux jeu, je sais pas, de plus en plus, moi je trouve qu'on vit dans un monde quand même extrêmement égoïste, où les gens, comme toi tu disais, ils consomment et ils s'en foutent des conséquences, quoi. Après moi, le débâcle, quoi. Je prends ce que je peux prendre et ce qui restera par après, je m'en fous, quoi.
Je vais en revenir à ta situation personnelle. Tu disais que tu as choisi de quitter toute ta tâche, donc tu n'as plus de numéro de sécurité sociale. Comment tu fais quand tu tombes malade? Voilà, il y a souvent ça, finalement, les gens sont bloqués par leur peur. La peur de ne pas avoir, la peur de ne pas savoir, la peur de ne pas pouvoir gérer la situation. Donc ça, tu es allé au-delà de cette peur-là parce que tu as fait le choix de vivre comme ça, de cette manière-là. Donc est-ce que c'est possible de vivre sans numéro de sécurité sociale et comment est-ce que tu fais quand tu tombes malade?
Tu viens de dire un mot très très important. D'ailleurs, en gros capital, le mot peur. P-E-U-R, n'est-ce pas? Peur, D'ailleurs, c'est un mot... Quand les gens aujourd'hui me demandent « Décris-moi d'où tu sors, de quelle société tu sors », j'aurais tendance à dire « Je sors d'une société qui a peur, qui rêve de beaucoup de choses, mais qui ne vivent pas leurs rêves parce qu'ils ont peur. Comment je vais faire? Comment c'est possible? Je vais perdre ma sécurité. » D'ailleurs, extrêmement, de plus en plus de gens vivent dans une, moi j'appelle ça une routine tuante, mortelle. Ils en ont besoin pour avoir ce feeling de sécurité. Ça leur donne un sens de sécurité, il ne va rien m'arriver, etc. Et moi je dis toujours, qui ne risque rien ne gagne rien, c'est sûr, quoi. C'est vrai que je n'ai plus de sécurité sociale, c'est vrai que si je tombe malade, touchant du bois, que ça n'arrive pas trop, mais ça m'est arrivé bien sûr quand même à ma entreprise, c'est vrai que je paye dans ma propre poche, parce que il n'y a pas d'assurance qui paye ça. Ceci dit, des milliards de gens, mondialement parlant, ont la même situation, quoi.
Merci Claude.
C'est moi qui te remercie, à toi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs, partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.